Le produit digital, comme enfin le reste, les formations, etc., ce ne sont pas des sauveurs. En fait, si déjà tu n'arrives pas à vendre ta prestation de service, si tu n'arrives pas à vendre 500 euros TJM, tu n'arriveras pas à vendre un produit digital, une formation, etc.
Bonjour à tous et bienvenue sur Copywriting Game. Avant toute chose, je tiens à remercier SuperIndep qui sponsorise cet épisode. Si comme moi, vous êtes un auto-entrepreneur allergique à l'administratif qui veut juste se focus sur son activité, vous allez adorer SuperIndep. Perso, ils s'occupent de tout, mon URSSAF, ma comptabilité, ma TVA. Et en plus, ils viennent juste de sortir un outil gratuit pour estimer l'état de santé administratif de votre micro-entreprise en moins de 5 minutes. Je vous mets le lien en description et je vous laisse avec l'épisode. Ciao. Hello, hello. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'accueille Tiffany, une invitée de marque, une invitée d'honneur, puisque c'est aussi mon associé, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais voilà, donc Tiffany, bienvenue sur le podcast, deuxième fois que tu viens, et toujours content.
Hello Victor, merci de me recevoir pour la deuxième fois. Cette fois-ci, on est associé, donc ça a une autre saveur, et très très contente de venir partager sur un autre sujet sur ton podcast.
Yes, alors le fameux sujet en question, c'est le lancement d'un produit digital, puisque tu as lancé ton produit, c'était ton premier d'ailleurs, je crois, il me semble.
Ouais.
Ouais. Donc premier produit digital l'année dernière, système prospection, on va en parler. L'idée de cet épisode, c'est un peu de documenter comment t'as procédé, quelles ont été un peu, quelles sont les leçons que tu retires de ça, et partager de la valeur à des gens qui voudraient lancer leurs produits digitaux. Peut-être pour recontextualiser avant, au cas où il y a des gens qui nous découvrent avec cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, la classique, hein, mais bon.
Ouais. Alors je vais me présenter comme je me présente aujourd'hui, puis après on refera un petit peu d'histoire si tu veux pour remettre du contexte. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Tiffany Clémenceau, ça fait 3 ans à peu près que je suis freelance, et on vient de cofonder Esquad, qui est donc un collectif de freelance. On accompagne les entreprises à devenir leaders sur leur secteur grâce à une prise de parole collective sur LinkedIn. Donc AKA la fameuse stratégie Avenger pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est ce que je fais depuis un mois, on va dire à 90% de mon temps. On l'a lancé un peu en sous-marin depuis la fin d'année dernière. Et avant ça, donc j'ai été freelance en prestation de service. Je vendais de la rédaction web. Ensuite, je me suis un peu diversifiée sur des contenus un peu plus long format. Et pour finir, sur du ghostwriting LinkedIn depuis début 2023. Et j'ai vraiment eu cette spécialisation ghost sur toute l'année 2023. Donc, accompagner les dirigeants à développer leur personal branding sur LinkedIn.
Hyper clair.
Et donc, pour remettre du contexte sur comment j'en suis arrivée peut-être à lancer système prospection, parce que du coup, ça n'a pas tout à fait un lien avec tout ce que je viens de raconter.
Ouais, bah après, il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien dans le sens où tous les freelances, ils ont besoin de trouver leurs clients. Et toi, je me souviens d'ailleurs, un des premiers contacts qu'on a eus, c'était ça tournait autour de la prospection. Je crois qu'à l'époque, je sais plus, Valentin m'avait parlé d'une freelance qui avait trouvé... Valentin Decker, pour ceux qui connaissent, avait parlé d'une freelance qui avait trouvé ses clients, qui avait des bons résultats avec la prospection. Et en fait, il m'avait parlé de toi. Et donc, toi, tu trouvais une bonne partie de tes clients grâce à la prospection. C'est un peu la bête noire des freelances. Donc, c'est un peu le truc que tout le monde a peur. Personne sait comment faire. Personne aime se vendre. Et toi, ça te fait pas trop peur. Enfin, en tout cas, t'as eu des bons résultats et t'as bien rodé le truc. Donc, et après, t'as décidé de... déjà, pourquoi t'as décidé de lancer ce produit-là?
Ouais, alors après une belle année 2022 en freelance, à vendre uniquement de la presta de service, l'objectif début 2023, c'était de diversifier mes sources de revenus. À l'époque, le modèle qui me faisait rêver, c'était vraiment le modèle du solopreneur. Et donc, j'ai commencé par faire de l'accompagnement individuel avec une rédactrice pour l'aider à développer la partie business de son activité, ce qui représente quand même 50% du taf quand on est freelance, mais qui est oublié par beaucoup de formations en rédaction web, copywriting, etc. Et du coup, ça se retrouve... t'as des freelances qui savent écrire des articles de blog ou des pages de vente, mais qui savent pas se vendre et développer leur business. Et en fait, le début de l'histoire, c'est que moi, depuis le début de mon activité, je documentais avec des articles de blog tous les mois, et puis un petit peu sur LinkedIn. Et cette freelance, cette rédactrice web, elle suivait mes bilans. Et elle m'a envoyé un message un jour en me disant j'adore ce que tu partages, etc. Je vois que tu as réussi à développer ton biz et moi, j'y arrive pas. J'ai suivi plusieurs formations. Est-ce qu'on peut faire une heure de coaching. Donc, on a commencé par ça. Et à la fin de cette heure de coaching, en fait, elle m'a dit, bah, ok, enfin, tu m'as aidé dans plein de choses, mais je vois bien que, en fait, une heure, ça suffit pas pour changer mon business. J'ai besoin d'un accompagnement plus long terme. Qu'est-ce que tu peux me proposer quelque chose? Et donc, moi, à ce moment-là, j'avais très envie de, bah, d'aider d'autres personnes à faire ce que j'avais fait, transmettre, etc. Donc, je lui ai proposé de construire un programme sur 3 mois avec 12 sessions qui abordaient un peu tous les pans business dont tu as besoin pour te développer. Donc, c'était en individuel, on se voyait une fois par semaine. Et en fait, moi, j'ai construit le programme au fur et à mesure avec elle. Donc, c'était une offre bêta, en gros. Elle me faisait ses retours. Et du coup, le prix était forcément intéressant. Elle aurait payé beaucoup plus cher sur un accompagnement individuel si le truc avait été abouti. Et donc, c'était trop cool. Vraiment, les étoiles se sont alignées à ce moment-là. Une super rencontre. Et un des modules de ces 12 sessions, c'était sur la prospection. Et en fait, quand je l'ai animé, il y a eu un déclic chez Fanny, qui était assez ouf. Bon, globalement, enfin, toutes les sessions, elle apprenait beaucoup de choses, elle aimait beaucoup et tout. Mais vraiment, quand je lui ai parlé de la prospection, que je lui ai présenté comment moi je voyais les choses, le process, etc. C'était vraiment game changer pour elle. Et elle m'a dit, en fait, ça, il faudrait trop qu'il y ait d'autres freelances qui le comprennent. Elle était dans un groupe de rédactrices web et elle me disait, en fait, toutes les rédactrices avec qui je parle, elles voient pas du tout les choses comme ça et ça les aiderait beaucoup, etc. Et donc, moi, ça m'a un peu mis un déclic aussi de me dire, il faut que j'arrive à transmettre tout ce que je viens de faire avec Fanny en une heure en live à d'autres personnes, tu vois. Et comme j'avais aussi cette vision solopreneur, j'avais dans un coin de ma tête de construire un produit digital, mais je savais pas exactement quoi, comment, et donc finalement ça se prêtait bien au produit digital. Ça me permettait d'aider plus de freelance sans moi passer plus de temps, et c'était un produit que j'imaginais avec un petit prix qui me faisait une première, une porte d'entrée quoi dans un écosystème, et c'était sympa.
C'était quoi le prix déjà?
Au tout début, quand j'ai lancé la première fois, c'était 30€ TTC, le manuel tout seul. Et il y avait une option, le manuel plus 3 feedbacks en Loom sur tes mails de prospection, et c'était 60€ TTC.
Donc ouais, comme t'as dit le mot manuel là pour expliquer un peu aux gens le produit en lui-même. Donc c'était vraiment un guide étape par étape sur comment aller trouver tes premiers clients ou aller trouver tes clients.
Ouais, grâce à la exactement. Prospection. C'était ma méthode pour trouver des clients pour les freelances en écriture uniquement grâce à la prospection. Et donc le format, c'était un manuel interactif au format écrit qui se lisait à peu près en une heure et demie pour passer à l'action rapidement, un guide avec des étapes de A à Z. Donc ça, c'était la V1, et la V2, j'ai rajouté quelques vidéos études de cas, mais vraiment l'essence du produit, c'était un truc écrit. Je voulais pas du tout faire une formation vidéo de plusieurs heures.
Comment t'as procédé? Donc t'es parti de ce constat-là que ok, là les étincelles dans les yeux de Fanny, elles sont allumées sur ce module-là, ok, je vais faire un produit. C'est quoi que t'as mis en place? T'as commencé par faire quoi? C'était quoi un peu ton process, ouais, par rapport à ça?
Alors avant d'expliquer le process, je pense qu'il y a deux choses importantes qui me tiennent vraiment à cœur de préciser. La première, c'est qu'on lance pas un produit digital si on galère à vivre du freelancing. C'est très très important pour moi de le dire.
Ouais, ça me fait plaisir.
Parce que on voit beaucoup de choses sur LinkedIn et autres d'ailleurs, la magie du scale, produit digital, formation en ligne, bootcamp, etc. Machin.
Revenu passif.
Voilà, tout à fait.
Faites de l'argent en dormant.
Donc en fait, c'est le produit digital comme le reste, les formations, etc., ce ne sont pas des sauveurs. En fait, si déjà tu n'arrives pas à vendre ta prestation de service, si tu n'arrives pas à vendre 500€ TJM, tu n'arriveras pas à vendre un produit digital, une formation, etc.
Bah d'ailleurs, juste pour appuyer ce point-là, parce que ça me fait hyper plaisir que tu précises ça, toutes les personnes aujourd'hui qui vendent des produits digitaux, c'est hyper important de regarder ce qu'elles font à côté et ce qu'elles ont fait, quel est le background, d'où elles viennent, quelle est leur légitimité pour lancer un produit digital là-dessus.
Exactement. Il faut vraiment regarder tout le background, quoi, comme tu dis. Parce que, vendre un produit digital, ça reste vendre un produit, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui disent, par exemple, quand tu vends des prestats de services, c'est vrai que tu as quand même ce côté commercial. Que tu fasses de la prospection ou pas, mais après t'as quand même un client en call de vente et donc il faut quand même te vendre, tu vois. Et donc il y en a qui se disent non, mais si je vends un produit digital, je fais pas vraiment de la vente en frontal, tu vois. la réalité, c'est que tu vas écrire une page de vente et que tu vas aussi utiliser des arguments de vente. Et donc, en fait, si t'es pas à l'aise avec ça, si t'es pas à l'aise avec toutes tes pensées limitantes au sujet de l'argent, etc., etc., tu vas te retrouver avec les mêmes problématiques en vendant ton produit digital. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, tu manqueras de crédibilité aussi, tu vois. Parce que globalement, le produit digital, tu vas vendre quelque chose à tes pairs, une méthodo, en fait, ou enfin un raccourci ou quelque chose que toi, t'as bien fait dans ton activité. Et du coup, tu vas vendre ça aux personnes qui font la même chose que toi ou qui sont quelques étapes avant. Parce que tes clients en prestation de service, en fait, ils vont pas vouloir de ton produit parce que eux, ils te payent pour faire à leur place. Donc en fait, si demain tu leur amènes une méthode pour expliquer comment tu fais, en fait, eux, ça les intéresse pas parce qu'ils veulent pas faire eux-mêmes. Ils veulent toujours payer quelqu'un pour le faire. Donc tu vas t'adresser plutôt à tes pairs, et pour être crédible, en fait, aux yeux de tes pairs, il faut que tu t'aies réussi quelque chose. Par exemple, enfin, moi, en fait, ça aurait pas eu de sens si j'avais dit, je t'explique ma méthode de prospection, mais j'ai jamais signé un client via la prospection, tu vois. Ça marche pas. Donc la première étape avant de lancer un produit digital, pour moi, c'est de stabiliser un bon chiffre d'affaires en prestation de service. Et quand je dis bon chiffre d'affaires, pour moi, c'est 4000 euros par mois, en moyenne. Donc ça fait à peu près 48K sur l'année. Entre 45 et 50K sur l'année en prestat de service. Une fois que tu as atteint ce palier-là, je pense que tu peux commencer à regarder ailleurs. Et à te dire, ok, j'ai envie de diversifier mes sources de revenus. Pourquoi pas un produit digital? Pourquoi pas du coaching, de la formation en ligne, etc. Mais vraiment être solide en fait sur ta première brique d'expertise et en tant que freelance.
Ouais, juste sur ça. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que faut regarder de ouf l'expérience, etc. Après, les chiffres énoncés ici, ça dépend évidemment de la situation, parce qu'il y a toujours des gens qui vont. En fait, globalement, c'est un truc que t'as fait, si tu l'as déjà fait, en fait, quand tu vends un produit digital, ça va être un truc que tu vends au toi d'il y a 6 mois ou au toi d'il y a 1 an. C'est un peu ça la base. Après, je te rejoins sur le fait qu'il faut avoir stabilisé une activité, parce que si tu vis pas de ton freelancing et que tu commences à vouloir partir dans des produits digitaux, tu te disperses en fait. C'est juste ça.
Ouais, tu te disperses et puis enfin derrière, en fait, tu deviens juste un bullshitter, tu vois. Enfin, il y en a hein, qui le font plein. Et moi, c'est juste ça me rend ouf, tu vois. En fait, de voir des gens qui t'expliquent comment vivre de ton activité en freelance, comment trouver des clients grâce à la prospection, grâce à la création de contenu, etc. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils n'ont jamais eu un business qui tournait en free, tu vois. Bon, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, tu vois.
Très bien. Bon, je suis ultra content. Voilà. Les points sur les i d'entrée, là. Comme ça, voilà, les vendeurs de rêves... Ceux qui veulent juste faire de l'argent rapidement, vous pouvez quitter le podcast à ce moment-là.
La deuxième chose à préciser avant de rentrer dans le process, c'est que pour vendre un produit digital, il faut une audience. C'est en fait la création de contenu, c'est un prérequis de base pour ce business model. On verra d'ailleurs plus tard que c'est une des raisons qui m'ont fait l'abandonner. Mais il faut vraiment en être conscient. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour commencer. Moi, j'avais pas du tout 10 000 abonnés. Je crois que j'avais 2 000 abonnés sur LinkedIn.
T'avais 3
ou 2. J'avais 2K sur LinkedIn et j'avais genre 180 personnes dans ma newsletter. Tu vois, vraiment pas beaucoup. Mais j'avais quand même quelque chose. Mmh. Et en fait, si t'as vraiment zéro audience, ça va être compliqué de commencer. Il faut vraiment que t'aies envie de créer du contenu. Et si tu te dis, moi, j'aime pas les réseaux sociaux, j'ai vraiment pas envie de m'afficher sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe où, en fait, c'est sûrement que c'est pas le business model qui te correspond, tu vois. Et tu peux très bien vivre du freelancing en prestat de service, en faisant de la prospection, sans jamais construire une audience, et ton business, il peut très bien rouler. Mais par contre, si tu veux vendre des produits digitaux, ça vient automatiquement avec la création de contenu et le développement d'une audience.
Mmh. Yes. Et donc, OK, sur ça... T'as mis combien de temps pour créer le produit ?
Pour créer le produit en lui-même, j'ai mis une journée.
Okay.
En gros, j'ai d'abord construit le module sur la prospection pour mon coaching avec Fanny. Je sais pas, peut-être, j'y ai passé peut-être une demi-journée, une journée. Ouais, peut-être un jour, allez. Mais je dirais, okay, allez,
ça t'a pas pris une trop journée. Longtemps ?
Non, ça m'a pas pris trop longtemps. Okay. En gros, en fait, c'était analyser qu'est-ce que je fais quand je fais de la prospection et mettre tout par écrit, tu vois. Et surtout, enfin, en fait, c'est au-delà de qu'est-ce que je fais, parce que, en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut que tu te mettes et comprendre le business dans son ensemble. Donc c'est ça surtout que j'ai expliqué à Fanny et que j'ai expliqué dans le manuel. Et ensuite, ok, comment tu trouves un client, un prospect pertinent pour toi, pour tes services? Comment tu trouves son adresse mail? Comment tu vas rédiger ton mail? Et puis, comment tu vas relancer ton prospect, tu vois? Donc je pense que j'ai mis, allez, disons, une journée pour créer le module. Ensuite, je l'ai animé avec Fanny. Et donc une fois que je me suis dit, ok, ça, je vais le transformer en manuel, j'ai mis une journée à l'écrire. Et ensuite, j'ai mis 2 jours à créer le truc, la stack technique pour pouvoir le vendre et mettre en place le paywall. Donc, le paywall, c'est en gros quand tu arrives sur le produit qui est une page qui te dise tu dois payer et que tu dois mettre ta carte bleue pour pouvoir accéder au produit. Et j'ai mis 2 jours parce qu'il y a eu un bug. En fait, la technique, c'est pas trop mon truc. Et il y avait un truc de code ça allait pas bien. Et du coup, en fait, ça marchait pas quand je me connectais sur la page. Il y avait pas ce paywall qui se mettait. Donc, j'ai passé 2 jours à trouver le truc qui marchait pas. Mais une fois que j'ai trouvé, après, c'était assez facile.
Ouais, tant qu'on est sur la technique, t'as utilisé Notion.
Alors, au début, j'avais Notion que j'ai... j'ai rédigé le manuel sur Notion. Donc, il y avait en gros une page d'accueil et plusieurs sous-pages qui faisait chaque chapitre. Et ensuite, j'ai transformé Notion en site web grâce à un outil qui s'appelle super.so. Et donc là, en gros, j'avais les pages Notion qui ressemblaient à un site web avec un design sympa et tout. Et ensuite, il fallait que je rende ce contenu inaccessible tant que tu payais pas et que t'étais pas connecté à un compte. Et donc pour ça, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Memberspace. C'est un outil américain. Que j'étais très contente de l'utiliser quand j'ai commencé parce que ça m'a permis de faire un truc rapidement, mais avec le recul c'était la misère parce que c'est un produit américain donc il n'était pas aux normes tout ce qui était facturation TVA française. Il éditait pas de facture par exemple, donc je devais faire toutes mes factures à la main sur mon outil. Du coup ensuite je devais envoyer les factures aux clients manuellement, la TVA était pas prise en compte, enfin voilà, administrativement c'était un peu une misère.
Ok.
Et puis j'avais discuté aussi avec un développeur qui avait regardé vite fait et qui m'avait dit en vrai ça se pirate très très facilement. Enfin en gros le paywall était pouvait facilement passer derrière. Bon après j'avais dit c'est moi ma cible c'est des rédactrices web elles sont pas pirates déjà. Et puis bon on parlait d'un produit à 30€. Enfin tu vois c'est pas comme si j'avais un truc qui avait énormément de valeur.
Ouais tu vas pas te déterrer à le pirater.
Mais bref quand même le c'est pas une stack que je recommanderais aujourd'hui. Ce que je recommanderais, c'est system.io, qui est l'outil sur lequel j'ai basculé après, en cours de route. Français.
Français.
Qui est, alors, je suis pas forcément très d'accord avec tout le marketing du créateur de l'outil. En gros, enfin, c'est vraiment tout ce qui est marketing pushy. T'as plein d'outils pour faire, tu peux faire de l'upsell, du downsell, du mettre en place plein de choses qui mettent vraiment le FOMO, tu vois. Pour moi c'est un peu tout ce qui est qui fait un peu la mauvaise pub de l'infoprenariat, mais après toi t'as un outil entre les mains et c'est toi qui en fais ce que tu en veux, tu vois. Si t'as envie de mettre un truc pushy tu le fais, et si t'as envie de pas mettre un truc pushy tu le fais pas, tu vois. Donc System.io, ce qui est bien c'est que il fait les factures automatiquement, il gère la TVA en fonction des différents pays. Ça c'est top et en gros la plateforme est pas très sexy au niveau design, mais ça fait le taf quoi, et c'est très pratique et ça m'a fait gagner beaucoup de temps par la suite.
Ok, donc hyper clair sur la partie création, idéation, conception. Maintenant si on parle un peu plus du lancement, comment t'as procédé, comment t'as orchestré ton lancement, c'est quoi les étapes que t'as suivies pour ça? Je sais pas, est-ce que c'était une séquence mail? Est-ce que t'as fait tout un planning pour lancer ça?
Ouais. Alors, en gros, donc j'ai lancé mi-février. Et donc, début février, en fait, j'ai eu l'idée du produit. Et je me suis dit, je vais chauffer un peu mon audience pour voir un peu comment les gens y réagissent. Donc, j'ai fait plusieurs posts sur LinkedIn, sur la prospection, avec un CTA pour les amener dans ma newsletter. En fait, j'avais prévu de faire le lancement dans ma newsletter. Un peu en mode VIP, tu vois.
Est-ce que dans les posts, tu disais que tu allais lancer un produit ou juste tu disais j'envoie un mail sur la prospection? Est-ce que c'était annoncé
que tu allais lancer? Je crois que je disais genre En gros, tu vois, je détaillais un peu un des trucs qui faisait que j'avais des bons résultats en prospection. Tu vois, je disais par exemple mauvais mail de prospection, et là je mettais genre 5 points. Bon mail de prospection, 5 ouais. points. Et puis avec une conclusion, et ensuite je disais bah je crois que c'était le 12 février, je lance mon manuel avec toute ma méthode en prospection. Okay. Si tu veux être prévenu, rejoins la newsletter ou quelque chose comme ça, tu vois. Je crois que je disais ça.
OK, OK, très clair. Donc post éducationnel qui apporte de la valeur et call to action en parlant très ouais. brièvement de ton produit.
Exactement.
Et pour l'envoyer vers la newsletter.
Okay. Avec le recul, tu vois, je ferais pas tout à fait ça. Parce que
okay.
en fait, en gros, je demandais aux gens de s'inscrire à ma newsletter, alors que potentiellement il y avait des gens qui étaient pas intéressés par la newsletter, mais qui étaient intéressés par le produit, tu vois. Et je pense qu'en fait, il faut différencier
ouais.
la newsletter dans lequel tu vois, t'apportes de la valeur à ton audience, etc., et la liste de gens qui est intéressée par un produit que tu vas vendre, tu vois. Donc avec le recul, je créerai une landing page ouais. dédiée au produit. Avec mes arguments marketing, tu vois, dès que j'ai D'accord. l'idée, en fait. Avec, en gros, un CTA unique sur la page. Si vous êtes intéressé, laissez votre mail pour être averti. Et avec un formulaire Tally, tu vois, dès que la personne, elle laisse son mail, avec 5-6 questions, en gros, OK, pourquoi t'es intéressé par ce produit? Quel est ton plus gros problème aujourd'hui par rapport au sujet qu'on traite, tu vois? Si demain... ce problème pouvait être résolu, à quoi ressemble ta vie parfaite sans ce problème, tu vois. Et en fait, ça sert à déjà vraiment comprendre les vraies douleurs de ta cible, à récupérer des verbatims après pour mettre sur la page de vente et à potentiellement, bah, en fait, compléter ton produit que tu vas sortir, tu vois. T'as peut-être des gens de ta cible qui va te dire, bah, moi, j'aimerais telle et telle fonctionnalité, ça et ça, ça me ferait acheter à 100%. Ça me ferait pas acheter, tu vois. Genre, tu peux dire aussi une question, qu'est-ce qui serait un frein à l'achat, tu vois. Enfin, après, j'ai lancé un deuxième, enfin, j'ai pas lancé, mais j'ai accompagné une freelance à lancer un produit. Et dans le questionnaire, à cette question, tu vois, qu'est-ce qui serait un frein, il y en a qui nous ont dit un abonnement, tu vois, un prix par abonnement mensuel, ça me freinerait, je voudrais un prix en one shot, tu vois. Et donc, bah, potentiellement, si tu penses à lancer un produit avec abonnement, tu peux dire, ah bon, bah, ça serait un frein pour les gens. Donc, je vais peut-être mettre un prix one shot un peu plus élevé, mais pas un abonnement, tu vois. Bref. En fait, ça te permet d'avoir plein de retours de ta cible et du coup, d'adapter au mieux pour que ton lancement, il se passe le mieux possible, quoi. Donc, première étape, j'ai commencé à chauffer un peu avec des posts et tout. Et donc, finalement, bah, le jour du lancement arrive. Donc, le 12 février, j'envoie la newsletter mensuelle dans laquelle je fais le lancement. Et en fait, ça, c'était une grosse erreur pour moi. C'est que, en fait, donc, j'envoyais une newsletter par mois à l'époque.
Ah, et là, tu t'es mis à intensifier.
Non, pas du tout. En fait, c'est juste que, en fait, ma newsletter dans laquelle d'habitude j'apportais de la valeur, bah là, soudainement, c'est transformé en mail de vente, tu vois. Et en fait, pour moi, c'était une erreur parce que, en fait, j'assumais pas vraiment de vendre, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, ça va passer dans la newsletter. Okay. En vrai, le mail que j'ai rédigé, il apportait de la valeur. En fait, j'ai raconté ma première expérience avec la prospection où, donc, j'ai raconté comment j'ai fait et le prospect m'a répondu 5 mois après en me disant, oui, on peut se parler. 5 mois après, j'étais un peu en mode, what? Mais, donc, j'ai raconté, en fait, tout ce que j'avais fait. Donc, en soi, si tu lisais la newsletter, t'avais déjà de la valeur et tu pouvais, toi, mettre en place de la prospection par toi-même, tu vois. Et du coup, après, j'avais un CTA en mode, bah, si tu veux aller plus loin, je te détaille ma méthode dans mon manuel.
Ça, c'était le premier mail du lancement?
Ouais, qui était en fait ma newsletter, tu vois. C'était pas un mail de lancement. Et donc, c'est en fait, du coup, l'objectif de ce mail, il était flou, tu vois. C'est OK.
T'as perdu un peu l'effet lancement, le truc de ça y est, c'est lancé. Okay.
C'était un peu ouais. OK, c'est ma newsletter, mais en même temps, je fais un lancement, machin. Et donc, en fait, les gens, ils se comprennent pas trop. Et moi, de mon côté,
ils ont pas compris
En fait, j'ai pas du tout fait un argumentaire de vente dans mon mail, puisque c'était une newsletter à la base. J'ai pas non plus levé les objections, etc. Enfin, c'était pas du tout un mail de vente, quoi. Donc, avec le recul, encore une fois, bah, ce que je ferais différemment, c'est que, en fait, comme j'aurais en amont créé une landing page avec « si t'es intéressé, laisse ton mail », bah, en fait, j'aurais envoyé vraiment une séquence mail de vente à ces gens-là qui ont laissé leur mail, et j'aurais fait en parallèle à toute ma base mail aussi une séquence de vente, mais vraiment un truc séparé de ma newsletter, tu vois, en mode bah coucou, voilà, je lance un produit, si ça t'intéresse pas, désabonne-toi de cette liste-là, tu vois. Mais vraiment expliquer bah, la valeur du produit, quel problème il résout, qu'est-ce qu'ils vont trouver, etc. Tu vois.
Donc, tu aurais envoyé la même séquence que à ceux qui ont laissé leur mail, juste que dans ta newsletter des abonnés que tu avais déjà, tu aurais mis un truc directement dès le début en mode, là, il va y avoir une séquence de vente, si ça t'intéresse pas, tu cliques ici pour te désabonner de cette liste exactement. De diffusion. Okay.
Mais bon, au final, il y a quand même eu des bons résultats. Bon, à savoir que je m'étais pas fixé d'objectif, donc forcément c'est difficile de dire si c'était bien ou pas, mais je pense que je m'étais dit, si je fais 10 ventes sur le mois, c'est déjà ouf, tu vois, parce que bah en fait, encore une fois, pour se remettre dans le contexte, en fait je vivais très bien de ma prestation de service, et ce produit c'était vraiment un plus. Donc j'ai fait 5 ventes suite au mail, enfin suite à la newsletter, je crois que 3 ou 4 jours,
ce qui est pas dégueu en soi. Parce que 5 ventes sur un mail qui était flou dans la newsletter, tu vois, en mode ma newsletter mensuelle, mais en fait, c'est un truc de vente, mais je te mets un petit call to action à la fin. T'avais une liste email qui était assez petite. Finalement, tu fais quand même 5 ventes.
Ah, mais d'ailleurs, c'était pas mal. Bon, après, toi, t'as fait partie de ces 5 ventes, si je me trompe pas. C'est mignon, t'es acheté pour me soutenir.
Ouais.
Mais je crois que j'avais fait un mail de relance 3 jours après. Parce qu'en fait, j'avais fait une offre.
Ce qui avait donné quelque
chose.
Je
pense que j'avais fait genre 2 ventes le premier jour. Et ensuite, j'avais fait une offre. Si t'achètes, genre dans les 3 jours, il y avait... en fait, j'offrais les 3 feedbacks. En gros, t'avais accès au manuel et je t'offrais 3 feedbacks en Loom. Et donc, je crois que j'avais fait un mail de relance et là, j'avais fait 3 ventes de plus.
Et est-ce que si tu... Donc, comme tu dis, si tu ferais différemment, donc tu ferais une liste email séparée avec une séquence de ventes séparée avec les gens qui sont vraiment intéressés, est-ce que tu ferais un truc de pré-vente, genre tarif préférentiel parce que tu t'es inscrit sur la liste d'attente ou un truc comme ça ou pas du tout?
Ouais, ça, je pense que c'est une bonne idée.
En mode, j'annonce sur les réseaux que je lance le truc là dans une semaine. Là, je vous l'annonce que à vous. D'ici là, le prix
ouais,
est
carrément.
Temps.
Ça, c'est ouais, faire un prix spécial pour les gens qui sont dans la base mail de liste d'attente, ça, c'est bien. Ouais, c'est le seul truc que je vois, parce que quand t'es sur du petit prix comme ça, c'est un truc à moins de 100 euros, en gros, c'est ça, tu peux faire une promo. Après, si t'es sur des trucs un peu plus gros, tu vois, tu peux faire paiement plusieurs fois réservé à la liste d'attente. Où tu peux peut-être offrir une demi-heure ou une heure de coaching avec toi en individuel, réservé à la liste d'attente, tu vois, ce genre de bonus, quoi, pour motiver les gens à acheter.
Donc, ok sur ça. On termine sur le lancement. Tu as lancé, donc tu as fait ton premier mail, tu as fait ta relance, tu as fait tes premières ventes. Là, tu te dis, je crois qu'au début, tu étais un peu... Pour la petite histoire, tu m'avais envoyé un message au début, t'étais en mode, putain, il n'y a pas grand de cachette, ou il n'y a personne de cachette, je suis dégoûté. Mais bon, c'était le tout début. Après, on va en parler, mais t'as eu des bons résultats. Donc, qu'est-ce que t'as mis en place après? T'as lancé la com sur les réseaux?
Ouais, alors juste après, donc, cette histoire de vente sur la newsletter, j'en ai parlé sur LinkedIn. Genre, plus 3 ou 4 jours après, tu vois. En gros, j'ai fait un espèce de, enfin, une com de lancement. J'ai fait 5 ventes sur LinkedIn. Donc ça, c'était la première semaine, tu vois. En gros, la première semaine, j'ai fait 10 ventes. Et ensuite, sur le reste du mois de février, j'ai fait 11 ventes. Donc au total, j'ai fait 21 ventes pour 550 euros de chiffre d'affaires.
Ok, donc premier mois à 21 ventes. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je vais continuer à promouvoir. Tu te dis, bon, bah c'est bon, j'ai fait mon lancement.
Ouais, non, j'étais comme une ouf. Ouais, franchement, j'étais comme une ouf. En fait, quand tu commences à recevoir tes premières notifications Stripe, en fait, t'es en train de dormir, tu te lèves le matin et là, tu vois que t'as fait 2 ventes.
Ouais.
C'est la folie, même si on parle de 30 euros. Hein.
Ouais, en fait, ça, le cette saveur de dire ah ben
ouais, est, dire de putain, j'ai fait du chiffre d'affaires alors que j'étais pas en train de travailler, tu vois. Ça, c'est incroyable, assez incroyable. Mais enfin, moi perso, enfin, il y a l'adrénaline de closer en direct un prospect, elle est inégalable. Donc je préfère toujours faire de la vente en direct que de la vente comme ça de produits en ligne, mais ça reste quand même trop bien. de voir les notifs Stripe et tout, et de te dire, ah ben, en fait, mon produit, il peut tourner. Genre, moi, je peux avoir mon business de prestat de service et mon produit, il peut tourner à côté et me faire un complément, tu vois. Après, bah, c'est ce que je disais un peu plus tôt. En fait, l'enjeu, quand tu te lances sur des produits digitaux comme ça, c'est qu'il faut toujours, toujours renouveler ton audience. En fait, il faut toujours des nouvelles personnes qui te découvrent pour potentiellement acheter ton produit. Parce que, bah, là, en fait, moi, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc, je fais 21 ventes en février. Et je crois qu'en mars, attends, je reprends mon tableau. En mars, j'ai fait 6 ventes, tu vois. Et en fait, il y a eu l'effet de lancement, l'effet de, ok, ben, il y a, j'avais mon premier cercle de fans entre guillemets qui me suivaient, de les abonnés sur LinkedIn et à ma newsletter. Et donc, des gens qui étaient intéressés par ce sujet-là, ils ont acheté. Mais en fait, bah, ils vont pas racheter. Et potentiellement, ceux qui ont pas acheté, qui ont déjà vu passer l'info, c'est qu'ils sont pas intéressés, c'est que ça répond pas à un problème pour eux, tu vois. Donc, ceux-là, bon, bah, tu vas peut-être les convertir dans les mois qui suivent. Mais, le vrai enjeu, c'est quand même qu'il y ait de plus en plus de gens qui te découvrent et qui découvrent ton produit, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut en parler, très souvent.
Tu faisais des posts tous les mois
pour faire la promo. En gros, je crois qu'au début, je faisais un post par semaine pour parler de ça. Et ensuite, j'ai intensifié, je suis passée à 2 posts par semaine sur ce sujet-là, tu vois.
Et est-ce que tu vois une corrélation? Est-ce que ça a changé un truc, le fait que tu intensifies les posts?
Ouais, je pense. Bah, en fait, tu vois, je suis devenue top of mind, enfin, petit à petit, mais je suis devenue top of mind sur le sujet de la prospection en freelance pour les freelances en écriture. Tu vois, bah, par exemple, toi, tu m'as invité sur ton podcast pour en parler. Je sais plus quand est-ce qu'on avait fait ça, dans l'été ou un truc comme ça. Tu vois, j'étais invitée pour animer une masterclass dans un programme pour freelance. Sur la prospection, évidemment. Souvent, très très souvent, j'étais citée dans des posts, dans des commentaires de posts qui parlaient de la prospection, etc. Vraiment, tu vois, j'ai vu que en fait c'est un sujet sur lequel on m'identifiait.
Ça fait un effet boule de neige, quoi.
Exactement, parce que j'en parlais souvent. Et tu vois, là, je regarde mon tableau. Donc en avril, j'ai fait 12 ventes. Donc je pense que le fait que j'ai intensifié les posts, bah, ça a aidé à ce que je fasse plus de ventes qu'au mois de mars. Ensuite, au mois de mai, j'ai fait 22 ventes. Et là, parce que j'ai fait un gros truc de FOMO. En gros, j'ai augmenté le prix de 30 euros TTC et passé à 50 euros TTC. Et donc, j'ai fait un post dans 24 heures, le prix augmente. Et donc, j'ai fait 12 ventes juste sur ce post-là.
Ok, pas mal. Juste avec un post.
Bah oui, oui, ouais. Sachant que... Et donc ça, c'est un vrai truc, tu vois.
Mais à part les publications LinkedIn, tu faisais rien d'autre, quoi. Tu faisais pas de mail.
Ouais.
C'était juste après la création de contenu qui faisait que les gens te découvraient et qui venaient acheter.
Ouais, j'ai sponsorisé la newsletter de Mode à la Veste. Okay. En mars ou avril, je sais plus.
Ça a eu un retour.
Peut-être
ça?
Non, bah du coup ça devait être fin mars, début avril. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je me souviens que j'avais été rentable, tu vois.
Okay.
Je l'ai écrit dans un de mes bilans, des articles bilan. Je pense que j'avais fait un petit peu de bénéfice, peut-être 50 euros de bénéfice, tu vois, par rapport à ce que j'ai payé.
Donc pas non plus.
Et le CA que ça m'a rapporté. Donc c'était pas incroyable parce que en fait c'était un trafic froid. Je pense que les gens ils avaient quand même besoin de me connaître un peu.
C'est ouf ça parce que pour le coup je pense que c'était bien tenté le sponsor Mode à la Veste qui a une grosse communauté sur sa newsletter parce que sur du trafic froid, sur des petits produits, tu peux tenter le trafic froid. Genre si c'est un produit qui coûte plusieurs centaines d'euros, un trafic froid, bon courage tu vois pour vendre. Mais sur un petit produit, ça peut se tenter.
Ouais, après, bon, tu vois, enfin, moi, j'ai été rentable, donc c'est que c'était pas trop mal, mais c'était pas non plus extraordinaire, tu vois. Parce qu'en fait, mon produit est tellement niché, tu vois, c'est prospection pour freelance en écriture. Donc déjà, si t'es graphiste ou développeur web, ben, ça s'adresse pas à toi. Donc malgré tout, ça doit être quand même une petite part de l'audience de Mode, tu vois. Mais bon, c'était quand même intéressant. Je suis contente d'avoir testé ça. Et
t'as pas eu un mois aussi où t'as fait ton record? T'as eu un mois? Ah ben c'était 5 quand t'as fait le FOMO.
Non, après j'ai fait un autre truc, j'ai fait une collaboration avec Valentin.
Ah oui.
Valentin Decker. En fait, donc lui, il avait à l'époque, il avait la newsletter payante Pygmalion, qui où en gros, il présentait 10 entreprises qui allaient avoir des besoins en contenu et voilà, il expliquait en gros pourquoi ce serait intéressant pour des freelances en écriture de prospecter ces entreprises-là. Et du coup, moi, mon manuel, il expliquait toute la méthode de comment. Et Valentin, il a amené 10 boîtes sur un plateau, quoi. Donc, en fait, nos produits étaient vachement complémentaires. Donc, on a fait une collab en juin où on a dit... je me rappelle plus trop. Je crois que c'était pour les 30 premiers qui achètent le manuel, ils avaient 3 mois offerts à Pygmalion. Donc, en gros, ça faisait 60€ d'offert. Et là, j'ai fait 28 ventes, donc 1 287€ de CA. Et après, Montagne Russe, en juillet, je fais 6 ventes. En août, je fais 13 ventes. Tu vois, en août, j'ai fait un post viral de folie à plus de 300 000 vues. Et du coup, en fait, ça a drivé du trafic sur mon profil LinkedIn. Sur mon profil, il y avait un lien, évidemment, vers Système Prospection. Donc, les gens sont allés voir et il y a eu des ventes, tu vois. Donc, encore une fois, le contenu, c'est lié. Plus tu fais de vues, plus les gens te découvrent, plus ils voient ce que tu fais et plus potentiellement ils achètent. Et après, j'ai commencé un peu à moins communiquer dessus parce que j'avais d'autres projets et les ventes ont suivi. Tu vois, en septembre, je fais 7 ventes. En octobre, 9 ventes. Novembre, 6 ventes. Décembre, descente aux enfers, 3 ventes. Donc, en fait, c'est vraiment lié.
Ok, non, mais quand même, c'est intéressant parce que quand tu as mis des efforts... Ça a augmenté les ventes, mais quand t'as arrêté les efforts, il y a quand même eu des ventes.
Oui, parce qu'après, il y a le bouche à oreille aussi qui s'est enclenché, tu vois. J'ai vu, comme je te disais, en fait, je suis arrivée top of mind sur le sujet. Donc, en fait, il y avait des gens qui me taguaient dans des posts, etc. Même des gens qui faisaient des posts pour dire « Ah, j'ai acheté le manuel, c'était trop bien, patati patata, voilà comment ça m'a aidé. » Et donc, petit à petit, le bouche à oreille a fait son effet. Il y a aussi, en fait, je suis rentrée dans des cercles entre guillemets de rédacteurs, rédactrices. Je sais que dans des groupes Facebook, souvent quand il y a des free qui demandent, oui, j'arrive pas à trouver des clients, en fait, on recommandait mon manuel, tu vois. Des fois, il y a des ventes, je savais pas d'où ça venait, genre j'ai pas parlé du truc pendant 2 semaines et d'un coup, je fais 3 ventes la même journée, tu vois. Et c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a recommandé dans un groupe et du coup, ça fait des ventes.
Ok. Ton produit, tu l'as laissé accessible. Il y a des gens qui choisissent de le fermer, tu vois, de le rouvrir, faire un truc de lancement, des trucs comme ça. Toi, tu as réfléchi à ce genre de stratégie ou pas du tout?
Ouais, alors, enfin, faire des lancements, en fait, ça, je pense que c'est cohérent quand tu vends un bootcamp ou à la limite même une formation en ligne, mais qu'en fait il y a une partie collective et que tu veux que tous les participants ils fassent le chemin en même temps. Moi, on est vraiment sur un petit produit où en gros, enfin, quand tu vas l'acheter, tu vas le lire en une heure et demie. Je voyais pas trop en quoi ce serait intéressant de faire de fermer entre guillemets l'accès, à part de faire une technique marketing abusive d'un faux mot en mode si tu l'achètes pas aujourd'hui, t'as loupé ta vie et en fait dans un mois il est de nouveau là, tu vois. Donc, c'était logique de le laisser tout le temps accessible.
Je te rejoins là-dessus sur des bootcamps, ça s'y prête bien, sur des petits produits. Ça s'y prête un peu moins. Mais là, t'as quand même choisi de le fermer. Là, tu le...
Ouais, combien, définitivement.
Tu le vends plus ? Ouais, définitivement. Pourquoi ce choix ?
Alors, déjà, c'est marrant. On peut voir les ventes parce que donc j'ai fait un post pour annoncer « Ok, dernière chance, si tu veux l'acheter, c'est maintenant ou jamais. » Et j'ai fait 24 ventes, 1 041€ de CA, tu vois. Comme quoi...
C'est ouf. Les gens font leur mettre le couteau sur la gorge, quoi.
Exactement.
Genre, c'est vraiment jusqu'à la dernière minute.
Et tu sais qu'il y a même une personne qui m'a envoyé un mail 3 jours après que j'ai fermé. Du coup, en fait, la page de vente, elle est plus accessible. Ça donne une erreur 404 quand tu vas dessus. Et il y a une meuf qui m'a envoyé un mail en mode « Oh là là, mais on m'a parlé de ton produit, j'arrive, c'est une erreur, comment je peux l'avoir, s'il te plaît, machin et tout. » Et donc, pour elle, j'ai dit « Ok, écoute, vas-y, fais-moi un virement de 50€ et je te donne l'accès, tu vois. » Mais c'était vraiment... Voilà, dès que tu mets un peu de FOMO, les gens, ils sont comme des oufs. Donc, la question, c'était pourquoi j'ai arrêté. En fait, j'ai décidé de ne plus proposer d'offres destinées aux freelances débutants, quelles qu'elles soient. En parallèle, pour mettre un peu de contexte, pour ceux qui peut-être me connaissent pas, mais j'avais du coaching de groupe avec un bootcamp pour aider les rédacs à devenir ghostwriter. Donc ça, j'ai arrêté. Je faisais aussi un peu de coaching individuel, j'ai arrêté, enfin j'en fais encore un petit peu, mais en tout cas je n'en parle plus du tout. Et donc en fait le manuel ne faisait plus sens dans mon écosystème puisque en fait aujourd'hui, comme je le disais en début, avec Esquad on est en train de construire un collectif, on fait la prestation de services uniquement à destination des entreprises. Et donc, dans ma ligne éditoriale, ça fait pas du tout de sens de parler de ce produit. Et comme on l'a vu, en fait, il va pas se vendre tout seul. Si j'en parle pas, il va pas se vendre. Donc, pas trop d'intérêt de le laisser en vente et en plus pas envie de gérer tu vois les questions des freelances, enfin si jamais j'ai une ou deux ventes en fait j'ai pas envie de gérer ça quoi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré killer le produit. Et puis il y a aussi peut-être une question de mise à jour où en fait bah là en janvier encore tu vois c'était encore pertinent, mais dans un an bah ce sera peut-être moins pertinent. Donc je me vois pas laisser un truc en vente qui est plus à jour, tu vois.
Oui, donc il y a le côté déjà flemme de gérer les demandes, les questions, etc. Et en plus t'es plus aligné aujourd'hui par rapport à ce que tu veux créer en contenu et ce que tu veux, les personnes que tu veux accompagner, c'est pas, tu veux plus t'adresser aux freelance débutants.
Ouais.
Ok, très clair. Bah je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon déjà sur l'histoire de ton produit. Je suis en train de regarder, j'ai ma liste de petites questions là. Je pense que j'ai vu à peu près les points. Non, bah écoute, on est pas mal. Après, j'avais mis avis global sur le business en ligne des produits digitaux. Mais bon, en vrai, y a à boire et à manger là-dessus. Hein. T'as des bons produits. Le problème, c'est que tout le monde croit que c'est la ruée vers l'or, quoi.
Ouais, bah enfin, je pense que voilà, j'ai déjà partagé mon opinion là-dessus. Je pense que enfin, il y a à boire et à manger dans tous les types de business. En freelancing aussi, t'as des prestataires de services qui sont très compétents et qui offrent des très belles prestas. T'en as d'autres, bah, qui sont franchement des charlatans et qui font de la merde. C'est valable pour tous les business. C'est plus, tu vois, toi, si demain t'as envie de vendre des produits en ligne, bah, il faut que tu sois à l'aise avec les techniques marketing requises pour vendre. Donc, par exemple, le FOMO, bah, c'est malheureux à dire, mais ça marche, tu vois. La preuve, quand j'ai fait une opération avec Valentin, en fait, c'est pour les 30 premiers, boum, je fais 1 200 € de CA. Là, quand je fais une opération en mode, bah, c'est maintenant ou jamais, boum, je fais 1 000 € de CA. Donc, en fait, parfois, je discutais avec des gens, des free, tu vois, qui me disaient, ah, j'ai vu ton manuel, ça fait 3 mois que j'hésite et tout. En fait, on parle d'un truc à 50 €, tu vois. Les gens, ils hésitent pour un produit à 50 € qui, en plus, répond à un besoin primaire. Tu vois, ça, c'est un truc important aussi. D'ailleurs, je crois que je m'étais noté. C'est que, en fait, il faut que ton produit réponde à un vrai problème, douloureux, et que les gens, ils sont prêts à payer pour résoudre ce problème-là, tu vois. C'est un peu la différence entre un must-have et un nice-to-have. En gros, le nice-to-have, c'est genre, ouais, ça serait cool si je l'avais, mais bon, ma vie est pas non plus un enfer si j'ai pas ce produit, tu vois. VS, le must-have, c'est vraiment le truc que... en fait, tu es au bout de ta vie si tu n'achètes pas ce produit qui va résoudre ce problème-là, tu vois. Et typiquement, moi, j'étais sur un problème primaire qui était trouver des clients. Enfin, c'est vraiment le premier pain de tous les freelances. Et donc, j'adressais ça. Et pourtant, j'avais quand même des free qui hésitaient pendant plusieurs mois avant de lâcher 50 €, tu vois.
Ouais, ouais. Non, mais tu fais bien de rappeler ça, ouais. Le problème douloureux. Souvent, on utilise l'acronyme DUR. Douloureux, urgent, reconnu. Ça, c'est, voilà, c'est si les gens qui écoutent ça sont intéressés par lancer un produit, pour le coup, c'est sûr que je pense que la différence entre nice to have et must to have, elle est pertinente. Ok, ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on est bien. Tu vois des choses là qu'on devait aborder? Je pense qu'on est pas mal, hein.
Non, je fais le tour de mes notes. Je pense que si après tu m'avais demandé c'est quoi 2-3 leçons à partager, je m'en étais noté qu'une seule. Et c'est vraiment un truc que je vois souvent qui revient, que ce soit pour un produit digital ou pour autre chose. C'est en fait pour moi, il faut lancer le plus vite possible. Dès que t'as une idée, il faut y aller quoi. Tu vois, j'ai une pote qui fait de la formation en ligne et qui a envie de lancer un petit produit en ligne. Et en fait, la première fois qu'elle en a parlé, c'était au mois de juillet. On est en janvier 2024. Elle a toujours pas lancé. Par contre, elle a fait une super étude de marché. Elle a posé plein de questions à sa cible. Elle a tout ça dans un Notion, etc. Mais en fait, bah, elle a toujours rien vendu, tu vois. Et on parle d'un produit qui coûtera moins de 100 €. En fait, pour moi, c'est une erreur. Encore une fois, c'est ma vision. C'est pas une règle unique, mais c'est une erreur, en fait, de faire une étude de marché de cette façon-là, quand tu vends un produit à moins de 100 €. En fait, ton étude de marché, tu vas la faire en vendant ton produit, tu vois. À partir du moment où t'as repéré qu'il y avait un besoin, que toi, t'as une solution qui peut résoudre ce problème-là, tu vois, bah en fait, fais une page de vente, connecte Stripe, et tu dis aux gens, ok, je suis en train de lancer ça, achetez si ça vous intéresse, tu mets un petit prix, tu vois, genre 50 €. Et en fait, si les gens, ça résout vraiment un problème pour eux, ils vont acheter. Derrière, tu vas avoir leur feedback, tu vas pouvoir améliorer ton produit, tu fais une V2, tu la mets à 80 euros, et puis tu mets une V3, tu la mets à 150 euros. Et en fait, ton étude de marché, elle se fait comme ça, tu vois. Alors que, bah, si t'attends d'être prêt, si t'attends d'avoir toutes les réponses du marché, machin, nana, bah, en fait, tu lances pas. Et quand on parle d'un produit à moins de 100 euros, en fait, c'est juste, tu gaspilles ton temps, ton énergie, et c'est juste dommage, quoi.
Bon, bah, bonne leçon pour terminer, là, ce qui...
Bon, pour les auditeurs, hein, s'ils s'aperçoivent qu'il y a un petit bug de son, c'est qu'on vient juste d'être coupé. J'espère que ça se verra pas, mais petite galère, là, avec le logiciel. Mais de toute façon, on est sur la fin. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience et pour ces leçons. Hyper cool. C'est cool parce que t'as pas hésité à partager les erreurs, à partager les trucs que t'aurais fait différemment. Donc, je pense que ça va aider plus d'une personne qui s'intéresse. Si la personne veut lancer un produit, bah, elle va avoir toutes les infos dans l'épisode. Donc, merci beaucoup, Tiffany, et c'était hyper cool de t'avoir encore une fois dans le podcast.
Bah, merci à toi pour l'invite, ravi d'avoir partagé tout ça. À bientôt.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Superindep, le sponsor de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour faire l'audit gratuit. À la fin, vous repartez avec une note et une liste de points de vigilance personnalisés sur l'état de santé administratif de votre micro-entreprise. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.